Bonsoir, mais où va l'Allemagne? Sur le front social, le puissant syndicat IG Metall menace une fois de plus aujourd'hui de durcir le ton. Sur le front politique, le temps est suspendu au prochain congrès du SPD, dimanche prochain à Bonn, où les délégués vont devoir valider ou pas d'ailleurs le récent accord de coalition trouvé à l'arraché par Angela Merkel. Et puis, sur le front économique, bien sûr, on va ouvrir le capot pour voir comment tourne ce moteur allemand, avec en toile de fond ce débat qui monte sur une éventuelle surchauffe de l'économie allemande. Donc la chancelière, elle est aujourd'hui sur tous les fronts, mais Angela Merkel tient-elle vraiment et encore les rênes de l'Allemagne? Bienvenue dans les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Mathieu Jolivet reçoit les décodeurs de l'écho.
Bonsoir donc et très heureux de vous retrouver. Je remplace exceptionnellement Fabrice Lundy que vous retrouverez demain soir aux manettes des décodeurs de l'écho. Et ce soir, on va donc parler de l'Allemagne, essayer de comprendre quelle direction prend l'Allemagne avec ses tensions sociales qui grandissent, cette impasse politique, mais aussi ses signaux économiques toujours aussi spectaculaires. Et on en parle avec mes invités, André Lozekrug-Pietri, président du fonds A Capital, Hélène Miard Delacroix, spécialiste de l'Allemagne contemporaine et professeur à Sorbonne Université, Édouard Tétrault, fondateur et associé gérant de Mediafine, et Isabelle Bourgeois, chercheur au CIRAC, le Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine. Bonsoir à tous et bienvenue dans ces décodeurs de l'écho. J'aimerais commencer peut-être avec vous, Hélène Miard Delacroix, sur ce front social qui est ouvert en Allemagne aujourd'hui. Au moment où je vous parle, on a eu 10 000 salariés de Daimler qui ont décidé de débréquer pendant une heure. Au même moment, IG Metall tenait sa conférence de presse annuelle aujourd'hui pour dire qu'ils allaient se prononcer le 26 janvier dans 10 jours pour voir s'ils allaient ou pas durcir le ton. On parlait de ce sujet il y a quelques jours sur BFM Business avec l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, Raymond Soubi, qui nous disait exactement que, vu de France, on avait tendance à surévaluer ces tensions sociales en Allemagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, globalement assez. Ce qui se passe actuellement est quelque chose d'assez normal, qui est que en Allemagne, lorsque l'on renégocie les conventions collectives, il est habituel que les syndicats montrent leurs muscles, fassent entendre leurs revendications sur certains domaines. Là, c'est un peu un des problèmes d'IG Metall, c'est qu'il parle à la fois de réduction de temps de travail et d'augmentation de salaire. Et puis, c'est un moment où on peut un peu donc débrayer et faire grève. Parce qu'une fois que les choses sont négociées et signées, eh ben il est d'usage en Allemagne que on continue à appliquer ce qu'on a la convention qui a été signée.
C'est important de le rappeler parce qu'il n'y a pas de phénomène exceptionnel finalement.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une concomitance étonnante entre, qui est un peu le hasard, de la fin de la convention collective dans ce grand secteur donc qui rassemble toute la métallurgie et un certain nombre d'autres secteurs, notamment le textile, des technologies de l'information, etc. Et ça tombe en plein dans les négociations en vue de former un gouvernement, une nouvelle coalition, qui donne un peu l'impression que là, IG Metall, les syndicats peuvent dans la rue essayer de faire un peu pression sur ces négociations qui sont pour l'instant des pourparlers, enfin, et de donner un peu un appui au SPD qui est entré dans ces négociations.
Et ils sont motivés hein, puisque le président d'IG Metall, Jörg Hoffmann, disait l'autre jour, nous n'allons pas laisser tomber.
Oui, mais ça c'est normal, il est dans son rôle. Il est dans son rôle, il n'a pas... il est payé pour ça, d'une certaine façon, si je peux dire les choses comme ça. Il est là pour représenter quand même... C'est un énorme syndicat, hein, IG Metall. Il y a 2,2 millions d'adhérents et ça touche énormément d'entreprises.
Et aujourd'hui, il réclame une hausse de salaire de 6% pour 3,9 millions de salariés et aussi la possibilité de faire des semaines à 28 heures.
À 28 heures pendant 2 ans. C'est-à-dire d'amener de la flexibilité choisie de la part des salariés, ce qui est assez nouveau et qui en même temps correspond à l'évolution du marché de l'emploi actuellement et à la multiplication des situations d'horaires réduits, d'horaires flexibles, etc. On reviendra peut-être sur ce point, mais je pense que c'est ça qui est vraiment très clair.
Isabelle Bourgeois, aujourd'hui, le fait que les syndicats d'IG Metall réclament finalement une part des fruits du gâteau de la croissance, est-ce que ça vous paraît normal? Est-ce que c'est un bon timing?
Le timing, de toute façon, il est donné. Puisque en Allemagne, c'est ce qu'il faut comprendre pour bien interpréter la situation actuelle. En Allemagne, seuls les partenaires sociaux, c'est-à-dire le patronat et son homologue syndical, ou l'inverse, comme vous voulez, les deux ensemble, ça va toujours par couple, seuls ces deux partenaires sociaux par branche sont habilités à fixer les salaires et la durée du temps de travail. Le gouvernement, le législateur, n'a aucun pouvoir de par la Constitution. Et il traite donc ça par contrat, mais une fois les conventions signées, elles ont force de loi. Les durées de contrat sont normalement de 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est réglé. Et quand le contrat arrive à échéance, à peu près 6 mois avant, commencent les négociations. Là, le contrat, la dernière convention est tombée à échéance le 31 décembre. Donc, ils se mettent à négocier. C'est tout à fait normal. Ce qui est plutôt étonnant, c'est que ça tombe dans la composition du gouvernement, parce que c'est la composition du gouvernement qui a pris du retard par rapport à... Mais c'est totalement déconnecté. Maintenant, est-ce que IG Metall revendique un peu trop ? Non. La machine industrielle tourne à plein régime. IG Metall demande 6% de hausse de salaire. Restons juste sur les hausses de salaire pour l'instant. On reviendra au temps de travail après, parce que c'est un problème à part. Le patronat dit oh, 2% maximum. C'est tout à fait normal. Après, il y a une négociation de marchand de tapis et ils vont se retrouver au milieu. Pas uniquement sur une hausse en pourcentage, peut-être quelque chose comme 4%, c'est faisable. Hein, pour les deux parties, mais avec un système de primes, avec d'autres rémunérations non pécuniaires qui accompagnent la chose. L'autre revendication, celle des 28 heures, ça c'est tout à fait un autre aspect. Ça c'est une flexibilisation et ça s'adresse, pour le dire crûment, aux jeunes, la génération des milléniums, ceux pour qui le temps de travail est plus important que le salaire. Et IG Metall cherche par là même à recruter une base plus jeune et à rajeunir sa base, parce que c'est ce qui manque cruellement au sein du syndicat.
Il faut aussi le rappeler, parce que c'est peut-être un des chiffres les plus importants. Aujourd'hui en Allemagne, Edouard Tétrault, on a un taux de chômage qui est à 5,5%. Je veux dire, quand on est proche du plein emploi, j'imagine que quand on doit gérer des tensions sociales, le rapport de force, et là c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins en France, parce qu'on n'a pas la même structure, qu'on ne vit pas non plus la même conjoncture, on n'a pas fait les mêmes efforts non plus depuis 20 ans, mais le rapport de force, il est peut-être plus en faveur des salariés aujourd'hui.
Oui, alors là-dessus, il y a plusieurs choses. Alors ce que je vais dire là concerne vraiment l'Allemagne et est à front renversé par rapport à ce qui se passe en France. Hein. Health warning, précaution d'usage. D'abord, je trouve que les syndicats, notamment IG Metall, sont beaucoup trop raisonnables. Et en revanche, le patronat allemand est complètement fou. Pourquoi ? Nous sommes en face d'un pays qui fabrique une richesse capitalistique, industrielle, financière hallucinante. Je vous renvoie à la balance des paiements de l'Allemagne, qui est à plus de 250 milliards d'euros, à l'excédent...
Le plus élevé du monde.
L'excédent budgétaire de l'État allemand, qui est de plus de 40 milliards d'euros cette année.
1,2% du PIB.
Et un chiffre qui est peu connu, c'est que les travailleurs pauvres, c'est-à-dire ceux qui vivent avec moins de 60% du salaire médian, le nombre de travailleurs pauvres en Allemagne, depuis la réunification, un petit peu après, depuis 2004, a été multiplié par 2. Nous sommes en face d'un pays qui fabrique de la richesse. On ne sait plus tellement pourquoi ni pour qui. Ce qui est certain, c'est que au fur et à mesure qu'il fabrique cette richesse colossale, hein, avec un K, eh bien, il fabrique des travailleurs qui se sentent et qui sont effectivement de plus en plus pauvres. Je crois que les syndicats... attention, nous parlons de l'Allemagne qui est à front renversé avec la France. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je conseille des gens entreprises ici. Mais la réalité est celle-là. Je pense que la chance est peut-être une des limites du patronat allemand, c'est d'avoir des syndicats peut-être effectivement trop raisonnables. J'espère qu'on reviendra tout à l'heure à cette onomatopée bizarre qui s'appelle la GroKo, la Grosse Coalition, hein, qui est aujourd'hui faible et qui a besoin d'haltères pour se muscler. Parce que je crois que la clé, elle est là. On a l'impression un peu d'un dialogue très impuissant entre le patronat et les syndicats, qui va arriver à une augmentation très faible des salaires et donc du pouvoir d'achat des Allemands. Et qu'en revanche, c'est aux politiques, beaucoup plus qu'aux syndicats et aux patronats, de prendre cette initiative historique. initiative historique que d'une certaine façon la France et le reste de l'Europe appellent de ses voeux depuis longtemps et qui doit s'inscrire aussi dans un cadre européen.
Isabelle Bourgeois, vous voulez réagir?
Juste une toute petite précision à apporter pour pas qu'il y ait d'erreur d'interprétation sur le mode de fonctionnement allemand. Les partenaires sociaux, ils s'appellent partenaires. Il y a équité de droit entre travail et capital en Allemagne. Hein, et ils travaillent ensemble. Et ils partagent la même doctrine de l'économie sociale de marché. Une entreprise, seule une entreprise prospère peut payer des salaires élevés. Ça, c'est une chose. Mais ils ont une règle d'or depuis de très longues années. Et en tout cas, depuis l'unité allemande. C'est que la hausse des salaires ne doit jamais être supérieure à la hausse de la productivité. C'est tout à fait l'inverse du problème français. Nous, nous en mourons d'avoir des salaires beaucoup trop élevés par rapport à la productivité. Mmh. Ça, c'est quelque chose d'important. Quant aux travailleurs pauvres, on peut en revenir après, mais ça, c'est un mythe français sur l'Allemagne.
Attendez, je ne veux pas vous faire une leçon sur ce qui est en train de se passer dans un pays que vous connaissez bien, mais les chiffres ne mentent pas. Nous sommes passés de 1,9 million de travailleurs pauvres à 4,1 million de travailleurs pauvres en Allemagne. C'est, pardon d'avoir l'air d'un syndicaliste primaire.
Honorable les syndicalistes.
Absolument. Mais il faut aussi regarder l'Allemagne avec des yeux, avec beaucoup de sang-froid. Une machine à fabriquer énormément de richesses et qui ne sait plus tellement quoi en faire. Oui, une machine compétitive, une machine qui gère des excédents, mais pas de pouvoir d'achat. Et des salaires beaucoup trop bas.
Dans les services et non pas dans l'industrie. Nous parlons de l'industrie
allemande. Non, l'industrie aussi. Alors l'industrie allemande, effectivement, s'est remise de ses traficotages avec Volkswagen, les trucages.
On va y revenir tout à l'heure.
Nous sommes en face de ce dilemme-là. Et je crois que l'Allemagne a dans ses mains non seulement... La grosse coalition a dans ses mains non seulement la capacité à redonner du pouvoir d'achat à sa population et à créer une dynamique qui favorise des partis raisonnables plutôt que l'AFD, madame. Et je crois que c'est aussi une réponse qu'attend l'Europe.
André Lezecroup-Pietri, vous, le chef d'entreprise avec votre culture franco-allemande, aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez ces tensions sociales en Allemagne? Et est-ce que quelque part, vu de France, on ne peut pas se dire que eux, là-bas, ça fait plus de 20 ans qu'ils redressent la barre, qu'ils ont donné des gages en termes de productivité, en termes d'efforts, et que quelque part, ils arrivent au bout d'un processus qui justifie les demandes que réclame aujourd'hui Gametal.
Je voudrais, moi aussi, un petit peu tordre le coup, parce que moi, j'y ai travaillé en Allemagne. J'ai l'impression qu'en fait, quand j'entends ce genre de débat, j'ai vraiment l'impression qu'on est des pays, on va fêter les 55 ans du traité de l'Elysée, mais en fait, c'est deux pays qui continuent à pas du tout se connaître. Et j'ai même l'impression qu'on se connaît de moins en moins. Ce mythe sur les travailleurs pauvres, il faut arrêter. J'entendais hier qu'un surveillant de prison avec 15 ans d'expérience en France gagne 1 600 euros par mois pour le boulot qu'il fait, et vous savez que c'est difficile, les travailleurs pauvres en Allemagne, ils gagnent plus que ça. Donc, monsieur, il faut quand même arrêter de dire qu'il y a 4,5 millions de personnes qui sont pauvres.
4,1.
Oui, mais c'est faux. Ils sont pauvres par rapport au fait...
Les chiffres
que
ne mentent pas.
Oui,
hein.
Mais non, mais vous faites des choses en relatif. Ce qui compte des deux côtés du Rhin, c'est de savoir combien les gens ont exactement dans leur poche à la fin du mois. Il faut ne pas être allé à Munich, à Francfort, à Berlin et même dans les nouveaux pays de l'Est pour dire que l'Allemagne est pauvre, parce que les 5,5% en plus révèlent des disparités énormes. Je veux dire, il y a 10% dans les anciens pays de l'Est et essayer de trouver quiconque à moins de 2000 ou 2500 euros par mois pour vraiment une fonction de base en Bavière, vous ne trouvez pas. Donc aujourd'hui, on a effectivement une situation de quasi plein emploi dans les anciens Bundesländer, comme on dit, et vous avez encore une situation de... Donc je crois qu'il faut faire vraiment très attention, parce que ça donne toujours cette impression en France que vous voyez le système allemand, il est basé sur une très très forte disparité. Le fameux index de Gini, que vous connaissez bien en tant qu'économiste, il est plus faible en Allemagne qu'en France. Il faut le dire, la disparité aujourd'hui entre les riches et les pauvres en Allemagne est plus faible. Je veux dire, rappelez-vous qu'on a quand même 12% des gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté en France. On en est loin en Allemagne.
Bon, pour revenir sur IG Metall, André Lefebvre,
je voulais parce que un petit chiffre qui va dans votre sens, le salaire d'un débutant dans la branche de IG Metall, c'est 2 300 euros par mois.
Donc on parle d'un chaudronnier.
C'est d'un débutant.
On parle de quelqu'un qui a 20.
C'est le premier niveau de la grille des salaires.
Donc franchement, là, voilà. On est sur des deux pays qui ont qui sont similaires.
Et avant d'ouvrir la page politique, quand même, parce que tout est le temps est suspendu quand même à ce qui va se passer dans les prochains jours. IG Metall a retourné le sablier quelque part et a dit, dans 10 jours, je vais dire si je durcis ma position est-ce que là-dessus, vous qui connaissez bien,
là, je dirais
est-ce que vous pensez que finalement les nuages risquent de partir dans le ciel de s'éclaircir.
Avant de venir à cette émission, je me suis amusé à regarder justement les grands titres de la presse allemande d'aujourd'hui. Il faut aller très 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 loin pour voir quelque chose sur cet aspect. Donc je pense qu'on est quand même un tout petit peu dans le dialogue assez habituel. Alors certes, le patron d'IG Metall que vous citiez a dit que ça serait la confrontation la plus importante depuis 20 ans. Il a cité ça, je crois, dans une manifestation. Oui, les salariés de Daimler ont débrayé, en fait, c'est du débrayage d'une heure. Ils sont 60 000 à être descendus dans la rue mardi dernier. On est quand même dans le jeu habituel. Moi, je trouve ça quand même très intelligent.
À vous entendre tous, on est dans un jeu de négo assez classique, finalement.
Par contre, ce qu'on peut peut-être apprendre de l'Allemagne, et surtout des syndicats, et là, je rejoins M. Tétrault là-dessus, c'est que l'approche, et ce que vous disiez, madame, exactement, c'est qu'en fait, cette approche sur les 28 heures, il faudrait se méfier en France de penser que c'est un peu comme les 35 heures en France. Il ne s'agit pas d'une réduction uniforme, il s'agit en fait d'aller vraiment dans le 21e siècle, qui est beaucoup plus de la flexibilisation. Donc, des syndicats qui appellent à la flexibilité du temps de travail.
Je crois que leur réclamation, ce serait plafonné dans un temps déterminé, 2 ans maximum. Oui. Donc on est vraiment pour adapter un temps en fonction de notre vie.
Dans la branche des métaux, le temps de travail est globalement de 35 heures à l'ouest, de 38 heures à l'est de l'Allemagne. Et il y a 18%, il y a un quota de 18% de salariés de la branche des métaux, dans le secteur du travail des métaux, qui peuvent travailler 40 heures. Alors c'est là-dessus que va porter l'accord. C'est-à-dire que ça va être, vous pouvez travailler moins et gagner moins, et vous pouvez travailler plus et gagner plus. C'est-à-dire que probablement, cette clause des 18% va sauter, et que le libre choix existera dans la mesure, bien sûr, où c'est compatible avec les impératifs de l'entreprise. Et va exister pour tous les salariés. Ils pourront choisir entre 28 et 40 heures.
Donc, c'est pour ça que c'est très difficile en France de répondre à la question combien de temps travaille-t-on en Allemagne.
Mais
c'est
ça ne vaut possible. Que pour les métaux, ça.
Oui, c'est ça. C'est très très difficile de dire ça. On peut faire un calcul. Et dire
exemple,
on
la fonction
près,
publique,
alors, à 35,6%, mais
la fonction publique, là, 42 heures.
Exactement. Alors, ça c'est la première chose qu'il faut bien comprendre et qui rejoint un peu votre question et ce qui a été évoqué par Isabelle Bourgeois, c'est le fait qu'il n'y a que normalement la politique ne se mêle pas de ces questions-là. Alors il y a bien une loi cadre, une loi, je crois qu'il date du milieu des années 90, qui a été améliorée au début des années 2000, 2010, 2015, et qui prévoit que normalement on ne doit pas travailler plus de 10 heures par jour et que il y a un maximum plus
48 heures par
comme
la norme
heures,
européenne, pas plus de 48
heures, pas plus de 48
heures. Mais c'est vieux,
mais c'est encadré. C'est un cadre. Et après c'est chaque branche qui négocie. Il y a une époque où Volkswagen avait négocié 32 heures pour tout le monde.
Et ça, c'est un intergroupe. Hélène Mire de la Croix, s'il vous plaît. On voit bien que là, on est dans une page de tension politique assez classique, de négociation sociale assez classique en Allemagne. Mais le tout, et c'est peut-être ça ce qui rend la situation exceptionnelle, se fait dans un moment de tension politique extrême. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, le temps, il est suspendu à un congrès du SPD qui a lieu dimanche à Bonn, durant lequel les délégués du parti vont devoir valider ou pas un accord de coalition qui vient d'être trouvé à l'arraché par Angela Merkel. Oui. Et en attendant, au moment où je vous parle, elle n'a toujours pas de nouveau gouvernement. Oui. Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer? Parce que je crois que ce n'est que le début d'un parcours de haie assez... Oui.
Alors, j'appellerai pas ça une tension politique, j'appellerai ça une tension institutionnelle. On est dans un jeu aussi normal qui, cette fois-ci, dure extrêmement longtemps. Il est normal, dans la constitution allemande, qu'une fois que le Parlement est élu, eh bien, selon le rapport de force des différents groupes parlementaires, et bien les partis essaient de se mettre ensemble pour faire une coalition. C'était facile à l'époque d'Helmut Schmidt, par exemple, il y avait 3 partis, il y avait un plutôt à droite, un plutôt à gauche et un au milieu, donc c'était assez facile. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe, surtout parce qu'il y a eu un éparpillement des voix et qu'il n'y a pas un grand bloc qui apparaît. On le sait, il y a eu l'échec des pourparlers en vue de la formation d'une quelque chose un petit peu bigarré qu'on appelait la coalition Jamaïque, où il y avait et des Verts et des libéraux qui avaient vraiment du mal à s'entendre, et la CSU de Bavière, Et surtout, on est arrivé dans une impasse. À partir du moment où il y a eu échec de ces premiers pourparlers, soit, comme on l'a dit, on disait, bon, on n'a pas réussi, eh ben, on va revoter. Sauf que la carte des nouvelles élections, et je pense, et là je défends mon avis, et je pense qu'il est celui du président de la République fédérale d'Allemagne, est de dire que c'est la plus mauvaise carte à jouer, parce qu'on risque soit de se retrouver exactement dans la même situation, avec un peu plus ou moins de chaque côté, on risque d'avoir un petit peu plus d'extrême droite, et pas tellement de possibilités de faire une coalition raisonnable. Donc on se trouve dans la nécessité de faire une grande coalition, c'est-à-dire de reconduire celle qui est sortante, et comme on le sait, qui est en gros le centre-gauche et le centre-droit. On met ensemble une espèce de grand centre qui fait une politique qui est jugée comme, par ceux qui sont critiques, comme pas assez à gauche par ceux qui sont à gauche et pas assez conservatrice par ceux qui sont conservateurs ou pas assez libéral. Le problème est que les chrétiens démocrates ont dit on recommence, on propose cela. Les sociaux-démocrates avaient dit le soir de l'élection qu'ils ne le feraient pas. Et c'est là qu'il y a un problème institutionnel qui devient politique parce que le chef du parti, Martin Schulz, donne l'impression, un, de se déjuger, vraiment de se déjuger, c'est-à-dire de dire jamais avec nous, nous voulons faire une cure d'opposition. Or, il y retourne. Et le problème, c'est qu'il y a une différence de positionnement entre la direction du parti et la base. Et moins que la base.
Et même pas forcément la base. Non, hein. Et d'ailleurs, Martin Schulz qui est en train de faire un marathon fédéral cette semaine. Je vous cite le président du SPD au Parlement régional de Rhénanie-du-Nord qui disait avant-hier « Il doit se passer quelque chose de sensationnel pour qu'une poursuite de la grande coalition puisse m'enthousiasmer. »
C'est essentiellement ambiance. À ce niveau-là, en effet, des permanents du parti, des représentants dans les lenders, qu'il y a les plus grandes résistances. Chez les jeunes aussi, les Yuzos, les plus grandes résistances contre la reconduction d'une grande coalition.
Le maire de Berlin est très sceptique.
Oui, notamment.
S'est exprimé hier soir.
Alors, juste pour finir de répondre à votre question, en effet, dimanche soir, il va y avoir un congrès exceptionnel, extraordinaire du SPD, où 600 délégués venant des différentes régions vont décider de ce qu'il en est, sauf que ce ne sera pas terminé, parce qu'une fois que, si le feu vert est donné par ce congrès extraordinaire pour mener vraiment des négociations et écrire un texte qui est contractuel, là, on va reproduire exactement ce que Zygmunt Gabriel avait obtenu il y a 4 ans, c'est-à-dire en 2013, c'est-à-dire de consulter la base, c'est-à-dire chacun des membres du parti qui, par lettre, va dire « je suis d'accord avec ce qui a été signé » ou « je ne suis pas d'accord avec ce qui a été signé », avec donc cette éventualité que tout soit remis par terre.
Édouard Tétrault, vous voulez intervenir?
Oui, je crois qu'il faut quand même qu'on mesure, on ne mesure probablement pas assez de ce côté-ci du Rhin, à quel point la grosse coalition est fatiguée et au fond fatigue son environnement, et nous espérons ardemment que cette fatigue n'est pas similaire à celle de du troisième gouvernement de coalition autrichien qui a fini par amener la droite et l'extrême droite à prendre le pouvoir. Je pense que nous sous-estimons de ce côté-ci du Rhin à quel point l'Allemagne est aujourd'hui politiquement malade. Non seulement par l'Alternative für Deutschland, dont on connaît les exploits de ses dirigeants. Il y a aussi une maladie qui est en train de se développer. Vous avez vu tout le débat sur la liberté d'expression, où tout d'un coup les tweets de dirigeants de partis sont certains sont fermés pendant 12 heures, 24 heures, puis rouverts, on ne sait plus tellement pourquoi. Et aussi, cette maladie commence à atteindre les partis traditionnels raisonnables. Qui la CSU a-t-elle invité pour sa conférence annuelle en décembre dernier?
Orban.
Monsieur Viktor Orban, qui est quand même le modèle de ce que l'on fait comme dictature démocratique, si vous me permettez l'oxymore, en Europe de l'Est. Qu'est-ce que c'est cette compétition? La CDU demain va inviter qui? Un autre dictateur d'Europe de l'Est? Nous avons, et je pense que Madame Merkel est en train de prendre la mesure de la gravité, peut-être aussi de la façon trop rapide avec laquelle elle a géré la question des migrants, de façon très solitaire. Je suis très frappé. Voilà une femme qui a dirigé pendant des années, qui fait des grandes coalitions et qui, sur les décisions les plus importantes, va dans le mur toute seule. Je pense aux migrants, je pense aussi à la décision qu'elle a prise sur le nucléaire de façon unilatérale, sans passer le moindre coup de fil à ses grands partenaires européens. Et hop, on remet les centrales à charbon, ce qui crée une gigantesque pollution en Allemagne et en Europe. Il y a chez cette femme une incapacité à, en fait, véritablement travailler en équipe, véritablement faire une coalition dynamique. Et c'est ce qui me préoccupe aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que face au mur qui arrive, en tout cas c'était la promesse de dimanche soir, eh bien le réflexe c'est OK, on a entendu ce que le président Macron proposait à l'université de la Sorbonne, madame. D'accord, chiche, en fait, c'est peut-être lui qui a raison et avançons plus vite sur l'Europe, de façon très concrète, un fonds d'investissement, des budgets partagés, et probablement, oui, ouvrons le pouvoir d'achat. Mais c'est vraiment, c'est du typique Merkel. Je l'ai vécu avec la crise financière de 2008-2009. C'est vraiment, parfois, elle réagit trop tard. Et c'est vraiment uniquement dos au mur acculé que, mais on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et on prend très gros risques avec une telle lenteur.
Alors, cette impasse politique et ce blues politique allemand, on va y reparler quelques minutes avant de regarder quand même ce qui se passe sous le capot de l'économie allemande et puis essayer de voir aussi ce qu'Emmanuel Macron peut faire dans tout ça, lui qui a envie de fêter la semaine prochaine l'anniversaire du traité de l'Elysée. Mais avant d'évoquer tous ces sujets, une courte pause.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Mathieu Jolivet reçoit les décodeurs de l'écho.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans les décodeurs de l'écho. Mais où va l'Allemagne en pleine tension sociale, en pleine impasse politique, alors que les signaux économiques sont toujours très très bons et font pâlir d'envie un nombre conséquent de ses voisins. Nous étions en train d'évoquer cette impasse politique dans laquelle est Angela Merkel qui tente de former une grande coalition mais qui est au début d'un parcours de haie, Hélène Miard de la Croix. C'est une situation de blocage avec un sur fond de blues politique que vous partagez, c'est ce que nous expliquait Édouard Tétrault juste avant qu'on...
Oui, alors en fait, je voulais un tout petit peu m'inscrire en faux, pour corriger ce qu'a dit monsieur Tétrault, c'est-à-dire que sur deux points. Le premier point, c'est la tendance qu'on a un peu en France à dire Madame Merkel, Madame Merkel, Madame Merkel. Madame Merkel n'est que chancelière. Nous avons un régime parlementaire en Allemagne. Oui. Et ce sont les... Non seulement, en plus, c'est un pays fédéral où il y a donc des niveaux inférieurs à qui elle doit demander leur avis. Et c'est le Parlement qui gouverne. Alors certes, elle a pu prendre au moins deux de ses décisions de manière assez solitaire. Il n'empêche... Alors c'est vrai que ce sont des décisions graves. Vous avez raison de dire qu'en termes de pollution et de retard de l'intervention de l'Allemagne sur le climat, d'un côté, et d'autre part, la question de la accueil des migrants, dont certains disent que c'est un simple problème logistique et qu'à la limite on pourrait le traiter comme cela, parenthèse fermée. En dehors de ces deux points, quand même, l'essentiel des décisions qui sont prises en Allemagne et des lois qui sont faites et les budgets qui sont décidés, c'est pas Madame Merkel. Madame Merkel n'est que un pion parmi d'autres éléments. Et ça, oui. Je pense que c'est un peu un défaut français de...
Mais vous avez raison de rappeler, la machine tourne.
On dit la même chose quand elle joue collectif. Quand elle joue collectif, ça marche. Quand elle y va toute seule, c'est une catastrophe.
Oui,
vous savez, la crise financière, s'il n'y avait pas eu Nicolas Sarkozy, pardon, il faut lui rendre ce crédit-là, peut-être pas le reste, mais s'il n'y avait pas eu Nicolas Sarkozy, si on se laissait guider par l'inertie, était tétanisée Angela Merkel.
La France agit, l'Allemagne réfléchit.
C'est la fameuse phrase de Sarkozy.
Je peux vous assurer que nous aurions connu une véritable catastrophe.
Mais la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy que vous rappelez avec grande justesse, la France agit, l'Allemagne réfléchit, la France agit, c'est un signe d'une méconnaissance phénoménale du nombre des acteurs décideurs en Allemagne. Elle ne peut pas prendre son téléphone et dire c'est comme ça.
Isabelle Bourgeois, effectivement, et vous nous le rappeliez pendant la pause, Isabelle Bourgeois, il y a quelques principes constitutionnels en Allemagne qu'il faut rappeler aujourd'hui.
Oui, oui. Et on voit bien là ce que vous disiez tout à l'heure, le gap qu'il y a dans la connaissance entre la France et l'Allemagne, malheureusement. Les décisions en Allemagne sont toujours collectives. C'est la première règle d'or.
C'est pas vrai.
Je suis désolée. On reviendra sur les migrants après, si vous voulez bien.
On laisse terminer Isabelle Bourgeois sur cette idée déjà. S'il vous plaît.
Donc, merci. Actuellement, il y a une crise institutionnelle, comme disait Hélène Miard de la Croix, tout à fait. C'est une petite impasse pour l'instant, avec de gros effets possibles, effectivement. Mais c'est quand même une petite impasse institutionnelle. Parce que qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? Il n'y a pas eu de négociation pour la composition d'un gouvernement. Il n'y a eu que des entretiens exploratoires. D'abord, sous forme de Jamaïque, ça n'a pas marché. Alors on essaye avec le SPD, CDU, SPD et CSU, trois partis quand même. Il n'y a eu jusqu'ici que le résultat d'entretiens exploratoires. Il n'y a pas de négociation encore pour constituer un programme de gouvernement. Donc, pour l'instant, c'est une situation qui n'est pas dramatique. Simplement, elle est dramatisée volontiers par les médias allemands. Parce que ça les embête un petit peu, ce système institutionnel collectif où il n'y a pas une personne, où il n'y a pas un agent, un acteur qu'on peut personnifier comme en France, sur la scène médiatique, avec un président, etc., une présidente de ceci, de cela. L'Allemagne, c'est collectif. Et alors les médias allemands jouent à ce jeu actuellement. Mais la situation institutionnellement n'est pas vraiment dramatique, parce que qu'est-ce qui est prévu ? Si jamais les négociations pour la création d'un traité de gouvernement échouait, ça peut arriver. À ce moment-là, il y a plusieurs dispositions possibles. La chancelière reste chancelière de toute manière. Et puis ensuite, elle a la possibilité de former un gouvernement minoritaire. C'est-à-dire, au coup par coup, elle doit chercher les majorités nécessaires pour faire passer telle ou telle loi.
D'ailleurs, je rappelle qu'une des choses qui a été négociée entre le SPD et la CDU, si je peux me permettre juste de rajouter un point là-dessus, c'est justement qu'il y ait un accord pour que non seulement ce qui est dans le contrat de gouvernement, mais aussi ce qui pourrait apparaître comme décision supplémentaire, soit prise en bloc. Et ça, c'était une grosse résistance de la SPD de dire, finalement, on nous enlève toute flexibilité, et c'est ce qui nous a tués pendant les quatre dernières
années. André Lezecoq-Pietri, voilà. je termine,
oui, juste un point.
Alors, allez-y.
C'est que vous avez dit tout à l'heure, l'accord a été trouvé par Merkel, l'accord avec le SPD. Et vous êtes, comme toute la presse française, c'est normal. Ça, rien la contre. Par contre, quand on connaît l'Allemagne, l'accord a été trouvé par tous les partenaires présents autour de la table. Il n'y a pas une personne ou un groupe qui va tirer la couverture à soi ou qui va dominer. C'est-à-dire, chacun fait des compromis. C'est ça un compromis à l'allemande. C'est gagnant-gagnant pour tous.
Un compromis
tous les intérêts,
on l'a compris, divise aujourd'hui au sein du SPD, ce qui laisse planer cette incertitude.
Chose, mais ça, c'est le problème interne du SPD.
André Lezecoq-Pietri, j'aimerais vous entendre, parce que en plein blocage ou incertitude politique en Allemagne, Emmanuel Macron, la semaine prochaine, va vouloir fêter en grande pompe l'anniversaire du traité de l'Elysée. Ce sera le 22 janvier, donc. Et lui, il en avait fait même un point et axe central de son discours de la Sorbonne le 26 septembre dernier, où il avait dit clairement qu'il voulait redéfinir un nouveau traité de l'Elysée avec l'Allemagne.
Absolument. Il s'était avancé en disant « je veux un nouveau traité qui serait signé le 22 janvier 2018 ». Donc là, effectivement, un jour après le congrès du SPD, ça sera sûrement compliqué. En tout cas, beaucoup de gens s'étaient posé la question, est-ce que c'est intelligent, est-ce que c'était malin, pour parler de manière crue, d'intervenir comme ça en plein début de négociation. À l'époque, c'était Jamaïque. Et finalement, probablement, l'intuition du président là s'est révélée comme pas mal de fois très bonne, puisque on a vu vendredi, lorsque la fumée blanche est un peu sortie des premières discussions, que l'essentiel des propositions du président de la République française ont été reprises, voire même augmentées. Je vais même vous donner une anecdote qui a un peu fait jaser dans les derniers jours. C'est que, semble-t-il, il y a une proposition SPD de CDU de créer un centre franco-allemand de l'intelligence artificielle. Quand on demande partout en France de quoi il s'agit, personne n'est au courant. Mais c'est une excellente nouvelle. Parce que, et ça, je dirais peut-être un deuxième point pour rebondir.
Mais ça, c'est un projet d'ailleurs que vous aimeriez bien à l'origine, que vous vouliez formaliser la semaine prochaine, qui aurait été une formidable illustration de nouveaux partenariats franco-allemands.
Écoutez, on espère toujours. Alors moi, je suis.
Il pourra encore y avoir une signature ou quelque chose de.
Je crois que le temps des grands contrats, des signatures, tout ça, c'est probablement un petit peu le temps du XXe siècle. Ce qu'il faut, c'est se projeter sur la vision. Et c'est là où peut-être je suis d'accord avec ce qui a été dit. Là où l'Allemagne et où il y a une vraie fatigue, et c'est peut-être ça qu'il faut retenir de tout ça, c'est je crois que le mécanisme institutionnel, la manière de gouverner en Allemagne, elle est très collective, mais probablement il y a une chose où l'Allemagne est en train de passer complètement à côté, c'est l'accélération du temps.
Exactement.
Et ça, les Allemands sont en train de s'en rendre compte que la Chine, elle va très vite. Moi, j'ai eu des retours, des visites du président français la semaine dernière en Chine, où il y a eu beaucoup de gens qui ont pris un gros coup sur la tête en se rendant compte que ce pays est en train d'accélérer de manière phénoménale. Et ça, c'est véritablement là où la France et l'Allemagne, s'ils arrivent à s'accorder sur le timing, doivent absolument mettre la cinquième. Parce que le temps, effectivement, alors le ministre de l'économie français le disait dans ses vœux hier, en disant le temps des discussions est terminé, il faut agir. Eh bien,
Voilà, bah, une des idées, ça serait d'agir sur les technologies,
pour tirer le
sur l'innovation. Ça, c'est vraiment un projet. Et en plus, c'est un projet, je crois que le temps des commémorations, et Dieu sait que j'y suis attaché, le temps de l'histoire des symboles, il est important. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est regarder l'avenir et s'assurer que le modèle européen, le modèle franco-allemand, il continue.
Pour tirer le fil que nous tendrait Lozo Krupp-Pietri, Édouard Tétrault, c'est vrai qu'il y a peu de temps, on ne cessait de dire en France, regardez, pour aller en Chine, si on veut exporter et croquer un bout du marché chinois, il faut imiter nos amis et voisins allemands et puis essayer de faire comme eux, chasser en meute. Mais même ce discours, c'est un discours de l'ancien monde. Aujourd'hui, c'est du franco-allemand. Ou c'est rien.
Absolument. Et puis moi, je crois que la bonne nouvelle dans toute crise comporte une bonne nouvelle, une capacité de rebond. La bonne nouvelle, c'est que les Allemands ne sont pas fous. Ils savent très bien qu'ils ont aujourd'hui en phase 2, avec l'exécutif français, ils ont l'exécutif le plus connaisseur de l'Allemagne, madame, le plus germaniste, le plus germanophile qui soit. Je ne vais pas citer tout l'entourage du président de la République à l'Élysée, mais en particulier Sylvain Faure, Alexis Kohler, secrétaire général. Vous avez un ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui parle allemand couramment et connaît intimement l'Allemagne. Il n'y aura pas de meilleure offre sur la table pour l'Allemagne avant des décennies. Vous avez aujourd'hui une politique très active du président Macron de la main tendue, en disant... Regardez, nous sommes passés à côté d'un vrai problème avec les élections de 2017. Vous n'avez pas plus européen, pas plus ami de l'Allemagne que moi aujourd'hui. Regardez ce que je vous propose. Chiche, sachez que ce billet ne repassera pas, ne sera plus valide dans 5 ans. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous une nouvelle fois, madame, c'est que il faut pas sous-estimer le fait que n'avoir personne en face de soi pendant 3 mois et probablement 6 mois, parce que c'est la durée de vacances du pouvoir exécutif allemand aujourd'hui, c'est un problème. Comme vous venez de le dire, Thierry, c'est le temps s'accélère aujourd'hui. Avoir la première.
En tout cas, ça n'empêche pas la machine économique allemande de performer.
Non, hein, mais c'est pas un sujet. Avoir la première puissance économique et une puissance politique de premier plan en Europe qui n'a pas de pilote au moment où le temps du monde s'accélère, c'est un vrai sujet. On ne peut pas faire de franco-allemand sans une vacance du pouvoir allemand.
Et au moment où il y a peut-être un effet Macron en France, et là-dessus, je voulais aussi vous entendre, Hélène.
Juste un mini mot là-dessus.
Oui, allez-y.
Si on les taquine un peu trop, les Allemands vont vous dire, écoutez, ça fait 15 ans qu'on attend la France, ils peuvent peut-être attendre quelques semaines.
Plus encore.
J'ai dit 15 ans, moi je mets 30.
Ça, c'est le discours de l'ancien monde, pardon, c'est le discours rabâché.
Excusez les cheveux blancs.
Non, rabâché, c'est pas une question de cheveux, c'est rabâché du déclinisme français, ça c'est... On a vu où cela nous menait, ce n'est pas moteur. Aujourd'hui, nous avons une offre dynamique. Nous avons non seulement un regard qui change sur la France, nous avons notre regard qui change sur nous-mêmes. Nos partenaires sont en train de se dire, mais au fond, c'est la dernière chance pour l'Europe.
Hélène Mière de la Croix, j'aimerais vous entendre aujourd'hui sur l'état de l'opinion allemande par rapport à ce qui se passe en France et à l'effet Macron. Car il n'y a pas une semaine qui se passe aujourd'hui sans que la presse allemande titre sur ou explique comment Macron a déterminé l'accord franco-allemand, Die Welt le 14 janvier dernier, qui met une photo en une de Macron et qui titre « Attention, ce n'est pas un lapin Duracell, c'est la fusée Macron ». Non, tous les jours, la presse allemande dit « Attention, quelque part, la France a le potentiel pour doubler l'Allemagne ». Est-ce que ça, c'est une lubie de journalistes allemands ou est-ce que vraiment il y a quelque chose qui se passe dans l'opinion allemande à ce sujet?
C'est-à-dire que ça marche ensemble. C'est-à-dire que ce que disent les médias forment quand même beaucoup l'opinion. Il ne faudrait pas non plus se leurrer là-dessus. Et de ce point de vue, on peut dire que les médias allemands sont assez objectifs. C'est vrai que après des décennies où le regard sur la France était quand même plein de commisération, là, en effet, il y a quelque chose de dynamique, de positif et de constructif. Donc c'est tout à fait juste. Et ça vient d'autant plus, de manière joyeuse, que il y a 6 mois, il y a 1 an, Macron était inconnu. Il y a eu à un moment une petite méfiance. On sait qui ce petit Genot, etc. Or là, il a passé vraiment tous les obstacles. Et en effet, c'est vrai que c'était aussi une façon de faire de la politique intérieure, si vous voulez, de la part des médias, que de dire exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, les Français sont là, maintenant, nous ne pouvons pas nous permettre de passer cette chance. Et je voudrais rajouter quelque chose. Je pense que si les entretiens préparatoires ont réussi à conduire au moins à ce résultat de suivre la France sur l'offre européenne, c'est quelque chose que j'ai dit dès le lendemain des élections, d'ailleurs, lorsque le président français a fait cette offre. Un gouvernement allemand, avec l'histoire qu'a l'Allemagne, ne peut pas se permettre, vis-à-vis de l'histoire, de laisser passer une offre pareille. Et de, qu'on puisse dire plus tard, c'est pas possible. Il y avait là une offre de la France sur la table et le gouvernement l'a laissé passer. Et c'est pour cela que les choses vont se faire. Alors c'est vrai, ça dure un peu, mais les choses vont se faire. Et à la limite, peut-être en ayant attendu tellement qu'ils iront plus loin qu'ils ne l'auraient été, qu'ils n'auraient été prêts.
Mais il faut,
André Lozocco-Pietri.
Oui, il faut probablement être passé, même en France, encore un cap. Je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de discussions qui sont encore empreintes de grandes déclarations. Là, j'ai envie de dire chiche au ministre de l'économie, de dire maintenant, il faut arrêter avec les annonces de fonds communs, d'initiatives communes, etc. Il faut faire des choses extrêmement concrètes et il faut surtout les décider. Il faut arrêter de lancer des missions dans tous les sens. Il faut véritablement agir parce que l'histoire ne va pas nous attendre.
Là, c'est votre nouveau sujet sur l'intelligence artificielle.
Oui, mais l'intelligence artificielle, non, mais plus généralement, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on réalise, c'est que, et c'est un sujet sur la politique avec un grand P, c'est qu'aujourd'hui, il y a des sociétés technologiques qui sont plus puissantes que des États.
Oui.
Et c'est ça, véritablement, qui est en jeu. C'est est-ce que on a une économie, une croissance qui est soutenue et qui soutient nos valeurs? Est-ce qu'on investit dans le futur? Là, ça, c'est un projet franco-allemand qui a cette dimension continentale, qui probablement aussi symboliquement est très fort, qui est orienté vers les générations futures. Ça, j'ai envie de voir du très concret dès le 22 janvier.
Et Isabelle Bourgeois, sur l'intention politique d'Emmanuel Macron de redéfinir un nouveau traité de l'Élysée, est-ce que vous pensez qu'il peut en ressortir des choses extrêmement concrètes pour relancer le couple Bien franco-allemand sûr. Sur le plan économique et politique?
Bien sûr, il peut en ressortir des choses concrètes, mais encore faut-il que tout le monde se mette autour de la table et regarde de très près, parce que les divergences de fond sont toujours là. L'Allemagne est toujours contre une union de transfert. L'Allemagne est contre un assouplissement du traité de stabilité et de croissance. Et ça commence là. Par contre, on peut... Bien sûr, l'Allemagne est d'accord à terme, avec la création d'Eurobonds, par exemple. L'Allemagne n'est jamais contre. Seulement, c'est bien prématuré tant que la preuve n'a pas été donnée par
les
États
membres. Vous êtes très optimiste.
Vous permettez que je termine ma phrase. La preuve n'a pas été donnée que les partenaires de l'Union européenne sont capables de se tenir au traité. Or, des mesures telles qu'elles sont proposées exigent qu'on se tienne au traité.
Merci.
Mais l'Allemagne est heureuse d'avoir en face d'elle, enfin, une France capable d'être.
Voilà, ce sera le mot de la fin sur l'Allemagne heureuse. Merci beaucoup Isabelle Bourgeois, chercheure au CIRAC, Édouard Tétrault, fondateur et associé gérant chez Mediafine, Hélène Millard-Delacroix, spécialiste de l'Allemagne contemporaine, et André Lozocco-Pietri, fondateur du fonds A Capital. Les décodeurs de l'écho, c'est terminé. Vous retrouvez bien sûr Fabrice Lundy ce mercredi à 19h.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.